France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Les prouesses des IA génératives, ChatGPT, Claude, DeepSeek ou Gemini provoquent toutes chez nous la stupéfaction. Mais comment leur intelligence, entre guillemets, est-elle évaluée ? Historiquement, le développement des IA s'inscrit dans une volonté d'imiter les compétences du cerveau humain. Pour mesurer cette proximité avec l'intelligence humaine, on utilise désormais des benchmarks, des tests standardisés pour comparer les performances des LLM, ces grands modèles de langage. C'est un champ de bataille et les enjeux financiers sont de taille. Et ces évaluations tiennent un rôle crucial dans l'orientation de la recherche. L'un des derniers nés de ces benchmarks porte un nom évocateur, le dernier examen de l'humanité. Comment tester les capacités de raisonnement analytique d'une IA. Évaluation des IA, soufflée dans l'AgoTest. Et bonjour Alban Levaux-Vallier.
Bonjour Natacha Triou.
Vous êtes docteur en philosophie, chargé de cours à Sciences Po, chercheur à Sorbonne Nouvelle et l'auteur de IA, l'intuition et la création à l'épreuve des algorithmes, paru chez Champvallon en 2023. Et nous sommes en duplex avec Clémentine Fourier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en IA à Hugging Face, la bibliothèque de l'IA, entreprise franco-américaine qui développe des outils pour utiliser l'apprentissage automatique et pour la tester. Et vous êtes spécialiste de l'évaluation des grands modèles de langue. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur l'appli Radio France, sur notre fil podcast. Et puis n'hésitez pas à nous suivre non plus sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources sur notre compte @sciencesqfd. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine se ressemblent-elles ? Comment fonctionnent ces tests d'évaluation ? Comment ont-ils eux-mêmes progressé ? Et in fine, que racontent-ils de notre conception de l'intelligence ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Alban Levaux-Vallier, qu'est-ce qui fait un bon agent conversationnel ?
C'est une bonne question.
Je vous vois lever
vous me surprenez
sourcil.
Un petit peu. C'est un...
Il nous bluffe tous les jours.
Oui, c'est un débat. Commercialement, c'est peut-être celui qui va garder ses utilisateurs le plus longtemps possible. Éthiquement, ça peut poser un certain nombre de problèmes. On a vu sur ces derniers mois que des agents conversationnels pouvaient aspirer des usagers pendant des dizaines d'heures d'affilée. Et ça pouvait créer certains dommages. Donc commercialement, c'est ça qui fait un bon agent conversationnel. Sam Altman, le PDG d'OpenAI qui fabrique ChatGPT, a dit « Ce n'est pas notre but, ce n'est pas ce que nous recherchons. Pour nous, un bon agent conversationnel, c'est celui qui va vous donner la réponse à votre question et puis vous pouvez retourner faire ce que vous aviez à faire. Donc qui va être efficace et bref. Et puis, donc, puisque le sujet, c'est un peu... l'évaluation des agents conversationnels, l'évaluation des intelligences artificielles. Évidemment, le grand débat, c'est est-ce qu'on est face à quelque chose qui se compare à l'intelligence humaine ? Est-ce que, du coup, un bon chatbot, en quelque sorte, est une émulation, une simulation, une remodélisation, enfin, les mots sont très glissants à cet endroit-là, de ce que nous, on fait quand on utilise le langage.
C'est en effet une très bonne simulation de la conversation humaine, Clémentine Fourier. Il faut quand même, pour un bon chatbot, il faut quand même une combinaison de capacités.
Tout à fait. Pour des bons agents conversationnels, on veut un ensemble de choses. Déjà, on veut qu'ils aient un panel de connaissances qui soit apprise et qu'ils vont pouvoir redonner à l'utilisateur de façon convenable. On veut que la capitale de la France soit Paris, on veut qu'à Marignan, ça réponde 1515, etc. Ensuite, on aimerait idéalement qu'ils aient des compétences en tout ce qui pourrait intéresser un utilisateur. Donc, historiquement, ça va être des mathématiques, de la programmation, et on a aussi des entreprises qui ont demandé à des annotateurs qui avaient une expertise dans un domaine quel qu'il soit, ce qui inclut le tricot ou n'importe quel loisir, de fournir comme ça des données pour spécialiser ces modèles à travers les compétences. Après, on a quelques compétences auxquelles on ne penserait pas nécessairement qui sont aussi nécessaires. Par exemple, on veut des modèles qui peuvent se souvenir, et je mets des gros guillemets autour de se souvenir, parce que ce ne sont pas des cerveaux, mais de longues conversations. On ne veut pas qu'ils commencent à vous appeler par un mauvais prénom, en fait, par exemple, après quelques tours d'interaction, qu'ils se souviennent de ce que vous leur avez dit sur vous, disons, pour une forme de personnalisation. Donc ça, c'est un petit peu le début de ce qu'on attend d'agents conversationnels. Et puis, cette année, on est passé sur des agents conversationnels qui peuvent utiliser des outils. Parce qu'on aimerait bien que ce soit de bons assistants. On aimerait bien qu'ils puissent répondre à vos mails à votre place, prendre des rendez-vous, prendre vos billets d'avion, etc., etc. Et donc ça, ça demande des capacités différentes.
En tout cas, le début des agents conversationnels, c'est Elisa en 1965. C'est un programme qui imite la conversation humaine. On écoute son créateur, Joseph Weissenbaum, qui nous raconte sa création. C'est notre archive du jour.
Does it understand what it's doing in the sense that we do? It's easy to leap to false conclusions, as Professor Weissenbaum.
Comprend-il ce qu'il fait, au sens où nous le comprenons? Il est facile de tirer des conclusions erronées. C'est ce qu'a découvert le professeur Weissman lorsqu'il a créé ELISA. ELISA est un programme informatique avec lequel n'importe qui peut converser via le clavier et qui répond à l'écran. Nous avons ajouté la parole humaine pour rendre la conversation plus claire. Les réponses de l'ordinateur semblent très compréhensives, mais ce programme est simplement déclenché par certaines phrases pour donner des réponses toutes faites. Néanmoins, la secrétaire de Weissenbaum est tombée sous le charme de la machine. Je l'ai alors invitée dans mon bureau et je me suis assis devant le clavier. Elle a alors commencé à taper. Bien sûr, j'ai regardé par-dessus son épaule pour m'assurer que tout s'affichait correctement. Après deux ou trois échanges avec la machine, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Pourriez-vous quitter la pièce, s'il vous plaît ?» Et pourtant, elle savait, tout comme Weissenbaum, qu'Elisa ne comprenait pas un seul mot de ce qui était tapé.
« You're like my father in some ways. You don't argue with me. »«
Why do you think I don't argue with you ?»«
You're afraid of me. »«
Does it please you to think I'm afraid ?»
Voilà, Elisa, c'est la version moderne de ChatGPT. Alban Levaux-Vallier, là on entend même parler de ce qu'on appelle l'effet Elisa, qu'on constate encore aujourd'hui dans nos façons d'utiliser ces agents conversationnels.
Alors peut-être un petit peu de contexte sur Elisa, c'est un programme rusé, dans le sens où en fait aujourd'hui il paraît assez simple, et il pouvait donner l'illusion que vous aviez une conversation avec quelqu'un, parce que donc, c'était un programme qui pouvait incarner plusieurs personnalité, entre guillemets, ou en tout cas plusieurs rôles, dont l'un d'entre eux, c'était un opérateur de mauvaise humeur, donc il répétait un peu tout le temps les mêmes phrases. Il rabrouait son interlocuteur, et un autre était, c'est celui qui est resté qui est le plus célèbre, était un psychothérapeute qui reformulait ce que lui tapait la personne sous forme de questions. Et en fait, par ce simple truchement, ça permettait d'avoir des conversations qui pouvaient être relancées par les questions et qui pouvaient durer, et donc donner une sorte d'illusion de conversation. Donc c'est un programme assez simple, et Weissenbaum a écrit un livre une dizaine d'années après avoir réalisé ce programme, en témoignant du fait qu'il a été surpris. Donc il y a l'exemple de la secrétaire que j'aime pas du tout, parce que je trouve très condescendant envers la secrétaire, mais peu importe, où il raconte qu'il a été très surpris par l'anthropomorphisme en fait qui s'est mis en place, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'utilisateurs du programme assez rapidement témoignaient d'avoir l'impression de parler avec un interlocuteur, enfin de taper, d'écrire, d'échanger des messages avec un interlocuteur humain. Et ce qui est intéressant aussi dans votre archive, c'est que le mot qui est répété un peu tout du long, c'est le terme de compréhension, et qui est au cœur du débat aujourd'hui sur les grands modèles de langage. Quand on utilise un ChatGPT ou équivalent, en fait, qu'est-ce qu'on entend par compréhension? Qu'est-ce qui fait qu'il me répond comme s'il me comprenait, alors que je sais que ça n'est pas un interlocuteur humain? Je sais qu'il n'y a pas de subjectivité derrière qui me comprend comme vous avez l'air de me comprendre pendant que je parle. Donc il y a cette question-là qui se pose dès le départ. Qu'est-ce que c'est que la compréhension? Mais je ne veux pas être trop long.
Mais vous n'êtes pas trop long. Vous venez de dire un mot important qui est au cœur de cette histoire, c'est celui d'anthropomorphisation. Ça, historiquement, le développement des IA, c'est quand même au départ pour imiter le cerveau, pour mieux le comprendre, dans l'histoire de cette recherche-là, Alban Levaux-Vallier.
Oui, alors juste, effectivement, vous aviez mentionné, je reviens peut-être là-dessus, à l'effet Elisa. Donc effectivement, dans son texte, Weissenbaum va parler de cet effet d'anthropomorphisation, et un terme va rester qui est l'effet Elisa, c'est-à-dire quand vous avez un programme auquel on attribue des qualités humaines un peu rapidement. Et aujourd'hui, on peut parler pertinemment d'effet Elisa avec ChatGPT en novembre 2022. Vous aviez déjà des grands modèles de langage, mais qui étaient présentés comme des... vous leur donniez un début de texte et ça produisait le texte qui suit. Donc ils n'étaient pas présentés comme un interlocuteur, même artificiel. Et avec ChatGPT, il est... c'est cadré, c'est entraîné et c'est designé pour ressembler à une interface de questions-réponses. Et donc là, il y a eu un effet Elisa très très fort, au sens où effectivement, ça peut donner l'illusion de parler avec un interlocuteur humain. Alors vous mentionnez ensuite effectivement le fait que dans les origines même du projet d'intelligence artificielle, il y a un questionnement sur l'humain. Le moment où ça naît, donc dans les années 40-50, c'est un moment, enfin c'est quelque chose qui a été constant de l'histoire de l'humanité, mais c'est un moment assez singulier sur où on se pose des questions sur qu'est-ce que c'est que l'esprit et comment est-ce qu'on peut faire une science de l'esprit. Donc au 19e siècle, on a eu la psychométrie, la naissance de la psychologie, après au 20e, la psychanalyse. Donc cette question reste et revient sur comment est-ce qu'on peut étudier l'esprit. Vous allez avoir pendant la Seconde Guerre mondiale tout le mouvement de la cybernétique qui va s'intéresser à cette question. Et avec le projet d'intelligence artificielle, c'est une nouvelle manière de proposer une réponse à cette question, ou en tout cas une direction de recherche, une manière de faire de la science de l'esprit, en abandonnant d'ailleurs le terme d'esprit. Pourquoi ? C'est que c'est un moment aussi où on va critiquer cette notion, considérer qu'elle est trop lié au dualisme associé à Descartes et à la séparation entre le corps et l'esprit. Quand on parle d'esprit, on pense à quelque chose d'immatériel, à quelque chose un peu relié éventuellement au fantôme, si vous voulez. Et donc là, à l'époque, l'idée, c'est de voir quels sont les aspects matériels de l'esprit. C'est pour ça qu'on va plutôt favoriser le terme d'intelligence. Et donc là, l'idée, c'est de proposer une nouvelle manière de faire une science de l'esprit en le fabriquant. C'est-à-dire au lieu de l'étudier de l'extérieur en faisant des tests, des expérimentations, ou de l'intérieur en interrogeant les personnes sur comment est-ce qu'elles réfléchissent, ou par la spéculation philosophique. Là, l'idée, c'est de dire, puisqu'on a ces machines dont elles ressemblent, et ça c'est plus ou moins à des cerveaux électroniques, par exemple c'est un terme que va utiliser Turing à l'époque, ou à des cerveaux en général, puisque nous avons ces machines qui ressemblent de très loin à des cerveaux, est-ce qu'on peut les modifier pour qu'elles ressemblent à ce qu'on imagine être l'intelligence et par là même, du coup, étudier l'intelligence.
Cette analogie cerveau-ordinateur, on la trouve en effet dans cette histoire-là avec des pionniers, Walter Pitts et Warren McCulloch, en 1943, sont les premiers à faire la comparaison avec le cerveau, et c'est aussi avec eux qu'on voit le coup d'envoi des réseaux de neurones. Clémentine Fourier, est-ce qu'on peut peut-être essayer de définir ensemble que sont les réseaux de neurones qui sont aujourd'hui majeurs dans la recherche en informatique ?
Le premier papier, il me semble, qui parle de réseau de neurones, c'est un papier d'un chercheur qui s'appelait Rosenblatt et qui s'intéresse à quelque chose qu'il appelait le perceptron. Et à la base, le perceptron était censé être un neurone artificiel qui pouvait voir. Donc il avait vraiment modélisé le premier neurone artificiel comme étant une partie qui capte l'information, une partie qui traite l'information. Et il a défini une première fonction mathématique qui modélise ce fonctionnement qu'on appelle le perceptron, qui est le premier réseau de neurones artificiels. Un réseau de neurones, maintenant, c'est une fonction mathématique extrêmement complexe qui apprend des motifs dans des données. Des fonctions mathématiques, on en a plein dans le monde qui reflètent des tendances dans des données. Par exemple, des fonctions qu'on appelle des cosinus ou des sinus sont des fonctions qui représentent des ondes et qui vont représenter typiquement des alternances. Par exemple, froid, chaud, la température entre le jour et la nuit. On a des fonctions que les lycéens connaîtront sûrement, qui s'appellent les fonctions affines, qui sont les équations d'une droite et qui permettent, du coup, de modéliser des courbes de croissance au début. Si vous voulez voir à quelle vitesse un arbre dans votre jardin pousse, vous pouvez mesurer tous les jours sa taille. Alors ça va pas bouger beaucoup, hein, mais vous allez obtenir une série de points et vous pouvez trouver l'équation de la droite qui passe par ces points et après faire des projections dans le futur. Donc, les fonctions mathématiques sont des façons d'apprendre en fait ces motifs qu'on trouve dans le monde. Et les réseaux de neurones sont des fonctions mathématiques beaucoup plus grosse, avec une mécanique interne plus complexe, qui apprennent des motifs dans des données. Et dans le texte, c'est effectivement, comme mentionné tout à l'heure, quels mots suivent quels autres mots. Donc la façon dont ça fonctionne pour entraîner un réseau de neurones, c'est qu'initialement, on prend une fonction mathématique qui a une forme dont on suppose qu'elle va permettre de modéliser ces données-là. Et on prend du texte, par exemple, la nuit tous les chats sont, on le donne à la fonction mathématique et on regarde ce qu'elle donne en sortie. Donc ça va vous donner des choses du genre, la nuit, tous les chats sont jambons. Sauf que la nuit, les chats ne sont pas jambons. Donc vous allez modifier la mécanique interne de cette fonction mathématique pour que chaque, ce qu'on appelle des paramètres, chaque composant de cette fonction, soit plus proche de la valeur qu'il aurait dû avoir pour vous dire gris, parce que la nuit, les chats sont gris. Et vous faites ça avec des dizaines, des centaines, en fait, des milliards de phrases. Et à force, la mécanique interne de cette fonction mathématique, donc les paramètres, se sont mis dans une position où la forme du texte a été apprise. Et donc ça donne une illusion de, à partir d'un début de phrase, ça vous sort une fin de phrase statistiquement plausible. On peut considérer qu'un réseau de neurones, c'est un petit peu des statistiques sous amphétamine, si vous voulez.
Merci pour cette allégorie. Et en effet, ces réseaux de neurones, le moment où l'industrie prend conscience de cette promesse, de combien ils sont puissants et prometteurs, c'est 2012, avec la reconnaissance d'image au moment de l'arrivée d'ImageNet. Et puis je fais un petit bond dans le temps quand même, parce que je vois l'heure qui tourne assez vite. C'est quand même 2017 avec les fameux Transformers, Alban Le Vauvallier.
Alors j'aimerais juste revenir un petit peu quand même en arrière sur la question de l'analogie et des premiers travaux sur l'intelligence artificielle, en revenant très très loin. Au milieu du 19e siècle, vous avez Charles Babbage qui fabrique une machine dont il espère qu'elle pourra faire toutes sortes d'opérations mathématiques et qui est décrite à l'époque par Ada Lovelace. Et à l'époque, dans les descriptions de cette machine, dans la terminologie qui est utilisée, vous n'avez pas de comparaison avec un cerveau humain. C'est intéressant de voir qu'en fait, ce qui a pris toute cette terminologie autour de la comparaison avec l'être humain et son intelligence, entre guillemets, ce qui a pris au milieu du 20e siècle, si ça avait fonctionné au milieu du 19e, on aurait parlé d'autre chose. Babbage disait, par exemple, la partie où il y a les calculs, il appelait ça l'usine. Et la partie où il stockait les chiffres s'appelait le storage, donc c'est le centre de stockage. Si vous voulez, la métaphore principale, c'était celle de l'usine, parce que c'était ça plutôt qui allait être important à cette époque, qui était dans l'esprit collectif, on va dire. Et du coup, c'est plutôt quelque chose de collectif, alors que au milieu du XXe siècle, donc à ce moment où on se pose des questions sur comment étudier l'esprit, les métaphores qui vont coller, les terminologies qui vont rester, donc par exemple, effectivement, celle de réseau de neurones, ou alors quand quelqu'un qui s'appelle von Neumann va définir l'architecture de l'ordinateur moderne, il va nommer l'endroit où on met les chiffres, où on stocke les programmes et les données, il va appeler ça la mémoire, au lieu d'appeler ça le store, comme l'aurait fait Babbage. Donc l'histoire aurait pu être différente. Et si cette analogie est restée, c'est à cause de cette ambition scientifique d'étudier l'esprit à travers les ordinateurs, mais ça aurait pu prendre une direction différente. Comme je suis revenu en arrière, j'ai oublié votre question.
je voulais revenir pour revenir un peu plus dans notre monde contemporain et sur comment justement les LLM ont été bouleversés par les Transformers, ce moyen de traiter le langage.
Oui. Donc en fait, voilà, alors on a parlé peut-être pour le dire pour faire le lien entre les perceptrons et aujourd'hui, et il y a un point intéressant qui est riche de leçons pour nous aujourd'hui, c'est que au moment où Frank Rosenblatt présente le perceptron, il y a une très grosse querelle d'interprétation qui va en découler entre Frank Rosenblatt qui va dire voilà, ce sont les prémices d'une machine qui perçoit. Et au tout début, elle est simplement capable de différencier la droite de la gauche sur des images. Après, elle peut lire quelques lettres, mais à condition qu'on ne change pas la police. Et puis d'autres chercheurs qui vont faire une analyse détaillée de sa machine et dire « mais non, en fait, on pense que c'est une mauvaise direction pour fabriquer une véritable intelligence artificielle ». Et en fait, l'histoire fait que Frank Rosenblatt va mourir assez jeune. Les chercheurs qui critiquent sa machine vont avoir plus d'audience que lui. Et les recherches sur les réseaux de neurones vont, pendant 10-15 ans, être abandonnées. Elles vont être reprises dans les années 80-90. Et puis elles vont triompher, entre guillemets, comme vous l'aviez dit, en 2012, au moment qu'on appelle le moment ImageNet. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir la querelle interprétative qu'il y a eu dans les années 60-70 autour du perceptron sur est-ce que ça fait vraiment ce qu'on dit que ça fait. C'est-à-dire Frank Rosenblatt qui disait c'est une machine qui perçoit, c'est contradicteur, qui disait non, ça ne perçoit pas, ça ne marchera pas. Et est-ce que c'est une bonne direction de recherche? Et on trouve exactement aujourd'hui la même chose, le même type de querelle d'interprétation autour des grands modèles de langage, entre ceux qui disent, voilà, c'est une bonne manière de d'avoir un agent conversationnel, ça comprend, entre guillemets, ou c'est un prémisse d'intelligence ou de raisonnement, on peut trouver tous ces mots chez les acteurs de l'industrie, et ceux en face qui disent, non, pas du tout, ça n'est pas une bonne direction de recherche en intelligence artificielle, ce ne sont que des perroquets stochastiques, comme on a pu l'entendre. Et donc, il est très difficile de trancher et de pouvoir dire, si vous voulez, on n'est pas dans un domaine scientifique dans lequel on peut avoir une sorte de résultat définitif. C'est l'histoire qui le dira et c'est là où iront les moyens aussi qui font que telle ou telle direction va l'emporter.
Bien justement, comment ces benchmarks nous aident-ils ou non pour trancher sur cette question? Restez avec nous.
France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Comment tester les IA et leur proximité avec l'intelligence humaine? C'est la question que nous nous posons en direct sur France Culture avec Alban Levaux-Vallier et Clémentine Fourier. On vient de parler des premières machines à réseau de neurones, de voir comment l'architecture de l'ordinateur moderne a prolongé l'analogie avec le cerveau humain et de parler voilà de cette quête de se rapprocher de l'intelligence humaine. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle donc des benchmarks pour évaluer la performance des grands modèles de langage, les LLM. Mais alors plus précisément, Clémentine Fourier, que sont ces benchmarks et quelles sont les capacités que ces benchmarks évaluent?
Alors, un benchmark à la base, c'est juste un ensemble de questions qu'on pose à des modèles pour regarder leurs réponses et comparer ces réponses à une vérité préconnue. Concrètement, on peut considérer que ce sont des évaluations comme un devoir sur table au lycée ou comme au baccalauréat. Les capacités qu'on évalue sont très très variées parce que le domaine a énormément évolué depuis donc 2017 où ces benchmarks étaient principalement faits par des académiques, donc des chercheurs qui voulaient tester des choses extrêmement précises. Par exemple, est-ce que ce qui était à l'époque des précurseurs du modèle du langage, est-ce qu'ils sont capables de faire la différence entre des entités nommées, donc des noms propres. Est-ce qu'on fait la différence entre Orange la ville, Orange la société, par exemple? Ce qui, à l'époque, était une tâche qui était très très difficile. Et donc 2017, le Transformers, 2022, le moment de ChatGPT. Maintenant, on n'est plus du tout sur ce genre de tâches extrêmement spécialisées. Maintenant, on est sur des tâches qui sont de plus en plus générales. Et dans les années 2022, les benchmarks qu'on avait allaient évaluer de la connaissance. On a un benchmark qui est particulièrement connu, qui s'appelle MMLU, qui est c'est des questions-réponses. C'est des QCM avec quatre réponses et c'est à travers les domaines. Donc on a de l'économie, de l'histoire, des maths, des sciences. C'est un tout petit peu orienté culture américaine. Je crois qu'il doit y avoir un cinquième ou un sixième des sous-sections qui sont spécifiquement sur les États-Unis. Et ce jeu de données-là, avec les questions-réponses, a été utilisé pendant plusieurs années pour regarder si jamais les modèles, après l'entraînement, donc après cet apprentissage statistique sur des données, avaient intégré de la connaissance de façon stricte. Le truc, c'est que quand un benchmark est utilisé pendant plusieurs années, et quand il devient un standard pour la communauté, en fait, tout le monde essaye de foncer dans cette direction-là, et donc on arrive assez vite à deux problèmes, un qu'on appelle la contamination, qui est le benchmark est tellement utilisé qu'il se retrouve sur Internet. Or, les modèles, on les entraîne sur énormément de données qui nous viennent d'Internet. Donc, les modèles ont appris par cœur, là encore des guillemets, le benchmark. Et donc, quand on leur pose des questions, ils connaissent la réponse, non pas parce que c'est de la connaissance qu'ils ont acquis par ailleurs, mais parce qu'ils connaissent la réponse, en fait. Ou alors, il y a quelque chose qui s'appelle la saturation, qui est que quand on vise une direction tous ensemble collectivement, on s'améliore de façon exponentielle dans cette direction. Et on atteint un plateau et on se retrouve à avoir des benchmarks qui ne permettent pas d'évaluer les capacités actuelles des modèles, mais les capacités des modèles d'il y a quelques années. Parce que sur cette direction-là, on a tous poussé le curseur dans la même direction. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour MMLU, qui a été remplacé depuis par d'autres benchmarks, dont Humanities Last Exam, dont on pourra parler. Au niveau des capacités qui sont couramment étudiées, on a les mathématiques. On avait deux benchmarks, GSM 8K et maths, qui étaient des références. Et c'est des problèmes de mathématiques niveau lycée. Mais pareil, on a eu les mêmes problèmes de contamination et de saturation, et donc ils ont été remplacés par des benchmarks. Un des plus complexes récemment s'appelle Frontier Math, et c'est des mathématiciens de très haut niveau, ça inclut des prix Turing, hein, qui se sont amusés à faire des petits problèmes de maths, qui du coup sont incompréhensibles au commun des mortels. Moi je lis les énoncés, je pleure un petit peu, mais on teste les IA dessus. Et tant que tant que les questions seront publiques, mais que les réponses seront privées, ça aura de la valeur parce que il y aura pas de risque que ça soit contaminé, donc que les modèles puissent apprendre par cœur ces réponses-là. On teste aussi la programmation, comme on l'évoquait tout à l'heure, et là il y a des façons de faire qui sont intéressantes. Par exemple, on va regarder les sites qui permettent aux gens de s'entraîner à programmer. Et on va récupérer les tests les plus récents pour s'assurer que les modèles n'ont pas déjà vu ces tests. Ou alors, on va aller sur des sites où les programmeurs stockent leur logiciel et stockent la façon dont ils résolvent les problèmes sur leur logiciel. Et on va demander aux IA de résoudre les mêmes problèmes. Est-ce qu'à partir d'une description de problème sur un logiciel, ils sont capables d'arriver à la bonne solution? Voilà. Et récemment, et ça date de 2023-2024, et c'est ça aussi qui donne cet aspect conversationnel, on a mis dans les grands modèles de langage, pas que du texte brut, pas que Wikipédia, pas que Internet en tant que tel, mais aussi des conversations au tour par tour. Et on a commencé à mettre aussi des conversations avec des instructions. Parce qu'on veut pas seulement la phrase suivante possible, on veut une phrase suivante possible pertinente. Et donc, on a eu l'émergence de benchmarks qui testent ça, qui testent la capacité des modèles à fonctionner sur plusieurs tours de conversation, en se souvenant de l'historique. On a un benchmark qui s'appelle Empty Bench qui fait ça. Et on a aussi eu des benchmarks qui testent ce qu'on appelle le suivi d'instructions. Et ça, c'est des benchmarks qui sont faits de façon très astucieuse. C'est-à-dire qu'ils demandent à l'IA d'écrire un texte qui doit suivre un format spécifique ou qui doit contenir un certain type de mots. Et c'est très facile à évaluer parce qu'on a juste à chercher dans le texte qui a été fourni si jamais le format est suivi. Donc ça teste ça très très bien. Alors que quand vous testez de la connaissance, vous avez plein de petites nuances subtiles. Si jamais la réponse, par exemple, à une question, la réponse correcte, c'est Saint-Pétersbourg. Vous avez beaucoup de façons d'écrire Saint-Pétersbourg. Vous pouvez l'écrire S-I-N-T pour Saint, vous pouvez écrire S-T, vous pouvez l'écrire avec une orthographe anglaise, une orthographe française. Du coup, pour comparer la réponse d'un modèle qui peut être très libre à une réponse stricte, c'est très compliqué dans les détails pratiques de la chose, disons.
On voit bien que auparavant on avait donc des évaluations qui étaient faites par des linguistes sur des tâches très précises. Là, toute cette évolution même des benchmarks, ça dit aussi quelque chose, Alban Levaux-Vallier, dans le rôle qu'ils tiennent même pour faire avancer la recherche, sur comment ces examens guident aussi le processus de réglage fin pour aider les chercheurs à faire progresser le domaine.
Oui, en fait, on a besoin de tests qui soient les mêmes, de bases de données d'entraînement qui soient les mêmes et de tests qui soient les mêmes pour comparer deux algorithmes. Et c'est ça qui a fait partie des ingrédients du boom qu'on est en train de vivre. Vous parliez tout à l'heure du moment ImageNet, donc c'est en 2012, après qu'ait été créée une grande base de données d'images qui s'appelle ImageNet, sur laquelle on pouvait comparer les performances des différents algorithmes et qui a permis de montrer la supériorité, entre guillemets, ou les meilleures performances des réseaux de neurones. Et en fait, à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu un extraordinaire engouement industriel sur les réseaux de neurones et puis sur les technologies d'IA en général, avec les grandes entreprises du numérique qui ont mis des sommes considérables, donc Google en premier, Facebook, etc. La création d'OpenAI en 2015-2016. Et vous avez eu une sorte de course extraordinaire entre ces différents acteurs. D'abord sur les premières applications des réseaux de neurones qui étaient plutôt du traitement d'image, le traitement du son. Et le langage était un peu le parent pauvre. Ça ne marchait pas très bien, c'était assez vite incohérent, ça ne marchait pas trop bien. Et en fait, Donc, vous avez mentionné tout à l'heure l'article de 2017 sur les Transformers. Ce qui est intéressant dans cette histoire, peut-être, c'est la surprise. C'est l'élément de surprise de la part, donc, nous, du grand public, hein, mais aussi des chercheurs eux-mêmes. Les auteurs de l'article sur les Transformers n'imaginaient pas que ça allait donner ce que ça a donné aujourd'hui. De la même manière, d'ailleurs, que les inventeurs ceux qui ont repris les travaux sur les réseaux de neurones, les inventeurs du deep learning, disent aujourd'hui tous leur surprise sur tout ce qui a pu être fait avec le deep learning. Et aujourd'hui, on a l'air assez perdu par tout ce qui se passe au niveau du langage. Donc, il y a eu une première surprise en 2017, donc avec cet article des Transformers qui a été repris par les différents laboratoires, hein, chez OpenAI, Facebook, Google, etc., se sont mis à travailler sur le langage et à voir qu'en fait, il suffisait de mettre... plus de moyens pour qu'on ait de meilleurs résultats. Donc il n'y a pas eu forcément de progrès en termes de logiciels. Bon, c'est un peu simpliste de dire ça, mais disons que les...
On a là, donné, mieux ça marche.
Voilà, et à tel point qu'ils ont même pu en abstraire des sortes de lois d'échelle, de décrire, voilà, si on met tant de données, tant de puissance de calcul en plus, on voit qu'on a tel gain de performance. Et donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est comme si... quelqu'un avait trouvé un filon d'or et il se rend compte qu'à chaque fois qu'on met un coup de pelle en plus, il y a un peu plus d'or. Donc tout le monde allait chercher les bulldozers sans se poser de questions dans les différentes entreprises de la technologie. Et en fait, cette surprise, je suis trop long, vous voulez que je...
non, allez-y.
Cette surprise s'est redoublée d'une deuxième surprise. C'est-à-dire que premièrement, ils se sont rendus compte que ça commençait à marcher enfin sur le langage, alors que c'était un peu le parent pauvre de cette histoire, et qu'il suffisait donc de mettre plus de moyens pour que ça marche mieux. Deuxième surprise, en 2020, donc c'est un article qui sort d'OpenAI, qui le dit le plus clairement, qui dit ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a des machines qui produisent du texte maintenant de plus en plus cohérent, où on voit que c'est de bien meilleure qualité à mesure qu'on met plus de moyens, mais en plus, on voit qu'il est capable que nos systèmes sont capables de réaliser des tâches. Alors que normalement, l'idée c'était de faire des choses qui produisent du langage et ensuite d'entraîner ces systèmes à réaliser des tâches en utilisant leur capacité linguistique. C'est pour ça que dans GPT, c'est pre-train. On le pré-entraîne et après on le ré-entraîne à faire des tâches médicales, juridiques ou autres. Et donc là, la deuxième surprise, c'est de dire, en fait, on se rend compte qu'il y a ce qu'ils ont appelé à l'époque, et les mots sont lourds de sens, des emergent abilities, donc des capacités émergentes. Donc ils sont étonnés face à leur propre création, entre guillemets, où ils voient que c'est déjà capable, ça vient avec des capacités embarquées, entre guillemets, à faire des mathématiques, faire de la traduction, répondre à des questions dans différents domaines. Et donc ça va vraiment mettre le feu encore plus. Et avec une grille de lecture qui est celle de est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence de l'intelligence ? Ce qui n'est pas le cas, mais qui va être très très forte et qui est encore très très forte. Quand vous écoutez les discours des gens qui travaillent dans ces grandes entreprises, par exemple chez OpenAI ou Anthropic, la manière dont ils parlent de leur système, donc c'est toute une terminologie, ils ne parlent plus de niveau de performance, ils parlent de niveau d'intelligence, ils disent voilà, nos nouveaux modèles maintenant font plus de raisonnement, alors que c'est juste plus de temps de calcul, enfin il y a toute une terminologie truffée d'analogie avec l'intelligence humaine qui vient de cette surprise-là.
Le vocabulaire, en effet, est complètement parasité, entre guillemets, par cette notion-là. On parle même aussi d'hallucination au lieu de parler de bug. Alors, quelles sont les limites à ces benchmarks? Comment justement les tester, ces modèles, ces LLM? Comment justement on a des difficultés à réaliser toutes ces évaluations? Restez à l'écoute.
Salam à cette foule qui se tient devant moi, à ce peuple qui roucoule dès que je capte son doigt. Le cliquetis de mon clavier retentit à chaque envoi, picotis et picota, trois petits likes et puis s'en va. Salam à cette foule qui m'obéit si bien, qui se range dans le moule du parfait citoyen. Je suis le diable déguisé dans un corps d'ange gardien, et c'est pour mieux te cerner que je t'épie au quotidien. Je te guette dans le bois, je te guette dans la rue, je te guette même chez toi, aux toilettes, je te vois tout nu.
Il est temps de te lever, il est temps de te lever, il est temps de te lever. Tu as reçu 8 messages vocaux sans importance et manqué 4 appels urgents par négligence. Au goût du jour, 6 rendez-vous planifiés, dont 5 que je n'aurais pas besoin de te rappeler. parce que sur le deuxième combo que ta patronne t'a laissé, elle te dit que t'es virée.
Ouais, écoute, je vais te cacher, il y a un truc qui cloche quand tu joues à Candy Crush pendant les heures de rush. Ta carrière est en plein crash. T'es pire qu'un mioche qui s'en fiche, chez moi ça me fâche. Alors c'est peut-être fait un peu à l'arrache, mais j'ai mis une coche sur le fric que t'empoches. J'aime pas la triche, bon courage, à l'approche.
Salam à ces ennuis que tu partages avec moi. Je suis sans doute ton pire ennemi.
Vanny de Poule, algorithme en direct sur France Culture. Comment évaluer les performances des IA? C'est la question que nous posons tout au long de cette heure à nos deux invités du jour. Clémentine Fourier, chercheuse en IA à Hugging Face et spécialiste de l'évaluation des grands modèles de langue. Et Alban Levaux-Vallier, docteur en philosophie chargé de cours à Sciences Po. On vient de voir comment étaient conçus ces benchmarks, ce champ de bataille pour tester les IA, leurs performances dans tout un tas de domaines, la logique, le code, la comptabilité. On voit qu'il y a des batteries de tests benchmark qui sont mises à jour tout le temps, mais on n'a pas évoqué encore ce premier benchmark initial, on peut dire presque, Alban Levaux-Vallier, qui est quand même le test de Turing.
Oui, c'est vraiment le grand-père, ou en tout cas la grande référence culturelle, même si en fait, il n'a pas eu une postérité technique si importante que ça. Il y a eu des tests de Turing qui ont été organisés, il y en a encore qui sont organisés, il y en a un qui est prévu pour 2029 avec des paris autour. C'est du coup Alan Turing qui a fait des travaux importants en informatique théorique dans les années 30 et en informatique plus pratique pendant la guerre mondiale et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il travaille sur les premiers ordinateurs modernes et qui va poser la question en 1950 dans cet article qui est resté très très célèbre. Où il met un peu les pieds dans le plat et dit voilà, est-ce que les machines peuvent penser? Et puis c'est un article vraiment très singulier, très déroutant, très étrange. Qui sera publié dans un journal de philosophie, d'ailleurs, il n'y a pas à l'époque de revue d'informatique ou autre. Et donc, il pose la question et il dit « Je pense que ce n'est pas la peine de poser la question de cette manière-là, ce n'est pas une bonne manière d'aborder le problème parce que les définitions sont changeantes. On ne sait pas très bien, chacun aura sa définition de machine et de pensée. Du coup, il faudrait qu'on fasse des sondages, ce serait ennuyeux. Ce n'est pas la bonne manière de poser cette question. Donc, on ne va pas définir les termes. » Ce qu'il va contredire ensuite dans l'article parce qu'il va définir précisément ce qu'il entend par machine et ordinateur, mais pas précisément ce qu'il entend par pensée. En tout cas, il dit, voilà, c'est pas une bonne manière d'aborder le problème. Une meilleure manière, ce serait d'utiliser un jeu. Il n'utilise pas le mot de test. Il propose un jeu qu'il appelle le jeu de l'imitation et qui s'inspire d'un jeu de l'époque qui aurait existé, qui consistait à avoir deux personnes cachées derrière des cloisons, un homme et une femme, et puis un jury qui interagissait avec ces personnes cachées et qui devait deviner le genre de l'une et de l'autre. Et les personnes cachées devaient mentir sur leur genre. Donc plus précisément, l'homme devait faire semblant qu'il était une femme, jouer à être une femme et induire en erreur le jury. Et Turing dit, voilà, on pourrait détourner ce jeu en ayant à la place une machine et un humain. Et le jury devrait essayer de faire la différence entre la machine et l'humain. Alors après, il ne donne pas plus tellement de détails techniques, je ne vais pas revenir sur la suite de l'article parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais il est assez flou. Il dit juste, oui, je pense que d'ici l'an 2000, on arrivera à avoir des machines qui réussiront au bout d'une conversation de 5 minutes à induire en erreur à peu près 30% des cas, le jury, etc. Donc il est très flou. Et du coup, la postérité de l'article, elle a été plutôt philosophique, en fait. Ça a nourri énormément de discussions, parce qu'après, il formule plein d'objections à son propre jeu, où il va balayer un peu les grandes questions qui vont agiter la philosophie de l'esprit ensuite pendant le XXe siècle. Et il y aura quelques tests de Turing, comme je disais, qui seront organisés dans les années 90-2000, mais ça n'a pas été si important, parce que la question est plutôt philosophique que technique, en fait, celle qu'il pose.
Voilà, et puis c'est le test de l'imitation. En fait, faut regarde pas forcément le fonctionnement interne dans ce test, mais le comportement extérieur. Est-ce que ça ressemble à une conversation humaine? Et le dernier né de ces tests-là, on l'évoquait en début d'émission, Clémentine Fourier, le dernier examen de l'humanité, c'est le quiz ultime. Là, on est passé à un niveau supérieur. Ce serait l'épreuve intellectuelle la plus exigeante du monde qui a été dévoilée en janvier aux États-Unis.
Alors, c'est très différent de l'évaluation dont on parlait avec le test de Turing et de l'évaluation par des humains. Il faut quand même mentionner qu'on a eu en 2023 l'émergence de toute une série d'évaluations par des humains. Où quand on voulait savoir quel était le meilleur modèle, la communauté avait commencé à développer une sorte de méfiance vis-à-vis des tests pour les problématiques de contamination et autres dont on parlait. Et donc, des gens ont mis en place ce qu'on appelle des arènes, où on met des modèles face à face et où on demande à un humain de déterminer lequel des deux modèles a le mieux répondu à sa question. Et on fait ça à l'aveugle. Donc l'évaluation humaine est quelque chose qui est encore utilisé. C'est aussi utilisé dans des entreprises. Et c'est intéressant de voir qu'on alterne dans le domaine entre de l'évaluation automatique, comme avec, du coup, le dernier examen de l'humanité, et de l'évaluation par des humains. En ce qui concerne le dernier examen de l'humanité, c'est en fait un ensemble de d'énoncés qui ont été crowdsourcés, c'est-à-dire que on a demandé à des experts dans énormément de domaines, en biologie, en linguistique historique, en vraiment beaucoup beaucoup de choses, en mathématiques, d'écrire des problèmes complexes ou des questions très spécifiques à leur domaine, et on a demandé à ces modèles-là de les résoudre. Les questions ont été rendues publiques, mais pas les réponses. Et ce qui est intéressant, c'est que on teste du coup ces modèles-là sur des questions extrêmement spécialisées qui demandent un petit peu de raisonnement, mais dont, enfin, les questions sont excessivement complexes. C'est-à-dire qu'un être humain lambda ne peut pas y répondre. Et donc, c'est difficile aussi de déterminer, sans être un expert soi-même, à quel point est-ce que les questions évaluent bien ou mal les modèles. Donc le titre a été très pompeux, ça a fait un gros effet marketing. On parlait tout à l'heure de l'origine de l'utilisation du terme intelligence sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier qu'à la base, il y avait des enjeux financiers. Dans les années 50, 60, 70, ça parlait d'intelligence. On parlait de robots positroniques qui allaient permettre de gagner la guerre froide. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'arguments marketing autour de la terminologie qui est utilisée en IA. Et donc, c'est pareil pour Humanities Last Exam. C'est un bon test. Parce que les questions sont complexes, parce qu'elles demandent du raisonnement, mais ça ne restera pas un bon test dans le temps. Déjà parce que poser des questions de connaissance pure à des modèles qu'on branche de plus en plus sur des outils, ça a peu de sens. De la même façon qu'au collège et au lycée, on vous fait réciter du par cœur, à l'université, on vous évalue sur votre capacité à raisonner en ayant accès à Internet. On ne vous demande plus de régurgiter les choses telles quelles. Et donc, de la même façon, les tests de connaissances pures, comme Humanities Last Exam ou d'autres, MMLU qui était le précurseur, GPQA, c'était des questions de niveau de thèse en biologie, chimie, physique, c'est exactement le même concept. Ces jeux d'évaluation-là vont faire leur temps assez vite.
Oui, puis jusqu'à présent, ce fameux test, le dernier examen de l'humanité, ou même s'il a fait le buzz, pour le moment en tout cas, on voit que les IA plafonnent à 10% de bonnes réponses à ce dernier examen. Alors, on continue de tester nos IA avec le reportage du jour. Si beaucoup de tests s'intéressent aux capacités générales des IA, certains sont beaucoup plus spécifiques. Pour le reportage du jour, on s'intéresse aux performances de ces intelligences artificielles dans le domaine judiciaire, et c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu à l'école Télécom Paris, sur le campus de Paris-Saclay, pour voir comment peut-on évaluer les capacités de raisonnement juridique des LLM.
Oui, et vous allez l'entendre, comme on le disait, la méthode ici utilisée ressemble beaucoup au contrôle que peuvent passer des étudiants. Le test SARA a été développé par Niels Holzenberger, enseignant-chercheur à Télécom Paris avec des collègues, et il prend la forme d'un QCM. Il est basé sur le droit fiscal américain, le droit fiscal étant particulièrement intéressant pour tester l'intelligence artificielle, parce que l'issue des affaires peut être ramenée à un chiffre, le montant des impôts qu'un ménage doit payer par exemple. Tandis que l'issue d'affaires juridiques d'autres domaines est bien plus complexe à appréhender. Mais alors quel est l'intérêt de ce type d'examen ? Eh bien derrière, il y a l'idée que si une intelligence artificielle est capable de raisonner avec le droit, elle pourrait nous aider à en trouver les contradictions ou les failles que des personnes malveillantes pourraient vouloir exploiter. Ce qui permettrait, par exemple, de limiter l'évasion fiscale.
Donc les personnages, souvent, c'est Alice et Bob. Ça, c'est un peu une lubie en cryptographie.
Lubie informatique.
Lubie informatique, voilà. Mais ça permet de simplifier. Donc là, le contenu, en essence, c'est qu'en 2017, Alice a gagné 33 200 $. Alice et Bob sont mariés depuis le 3 février 2017. Et Alice et Bob font une déclaration conjointe pour 2017. Et là, la question, c'est est-ce que le sous-paragraphe numéro 63C6A s'applique à Alice en 2017 ? Alors, comment résoudre ce problème ? Il faut aller voir la section 63C6A, donc je vais aller la chercher.
Mais ça, c'est le, là, vous le faites, vous, mais c'est le travail que doit faire l'intelligence artificielle.
Exactement.
Quand elle passe le test.
C'est ça. Elle doit lire, elle doit aller lire, en fait, cette section-là. Et vous vérifiez si, donc, ça s'applique ou non.
L'intelligence artificielle, quand elle passe le test, elle va répondre à toute cette liste de questions qui est dans ce dossier. En tout, il y en a combien?
Il y en a 276.
Donc, elle passe les 276 questions.
Une par une.
Vous savez les bons résultats.
Ouais.
Et ensuite, on fait un pourcentage, c'est ça, de bonnes réponses ou pas, voilà, qui permet d'évaluer cette intelligence artificielle.
Oui, c'est exactement ça. Donc, dans ces 276 petits problèmes, la réponse à chaque fois, c'est vrai ou faux. Donc, c'est relativement facile à évaluer de ce sens-là. C'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. Et à la fin, on a un pourcentage de si c'est juste ou pas. Et en plus de ça, vous avez exactement 100 petits problèmes, comme ça, 100 descriptions, où la tâche de l'intelligence artificielle, c'est de prédire la quantité d'impôts que quelqu'un doit pour une année fiscale donnée. Donc là, la réponse, c'est un chiffre, on évalue un peu différemment.
Depuis 2020, depuis que vous avez commencé à développer ce test qui s'appelle SARA, quel progrès vous avez vu un petit peu dans les résultats de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle a tout de suite été capable de répondre un peu à ces tests? Et puis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors, les méthodes ont beaucoup changé entre 2020 et aujourd'hui. Quand j'ai fait les premières évaluations sur ce jeu de données, j'utilisais un modèle qui s'appelle BERT. Et ce modèle-là, il donnait des réponses qui étaient en gros au même niveau que le hasard. C'est-à-dire que si vous répondiez de façon totalement aléatoire, vous auriez eu à peu près le même score que ce modèle.
Pas très intéressant, donc.
Donc voilà, pas très intéressant. Mais d'ailleurs, ça a été assez compliqué. On s'est longtemps demandé pourquoi on avait des performances qui décollaient pas. Mais globalement, en fait, on a vu ça aussi dans d'autres papiers qui sortaient au même moment sur des problèmes similaires. C'est que c'est un problème compliqué pour lequel on n'avait pas beaucoup de données pour entraîner les intelligences artificielles. Et donc, on butait là-dessus. L'année d'après, j'ai un peu augmenté ce jeu de données avec d'autres annotations, toujours les mêmes affaires, les mêmes parties du droit. Et là, on a décollé un peu. On n'était plus au niveau du hasard, on était juste au-dessus. Et puis ensuite, on a essayé GPT-3. Donc ça, c'était en 2023. Et là, on a commencé à sérieusement décoller. On n'était plus au niveau du hasard qui était 50%. On était vers 70% à peu près. Donc on n'était pas encore à 100%, mais on n'était plus trop loin. Et ensuite, avec GPT-4, on a encore poussé la performance plus loin et on est arrivé à peu près 86%. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on atteigne bientôt les 95% ou peut-être 100%, comme ça a été le cas pour plein d'autres datasets, pas forcément juridiques.
Et donc là, vous aurez de nouveau du travail parce qu'il va falloir améliorer le test, j'imagine.
Voilà, c'est ça l'idée. En fait, SARA, c'est juste un point de départ. Je voulais vérifier si conceptuellement on pouvait faire quelque chose avec du langage juridique. Maintenant, il faut savoir qu'il n'est pas réaliste. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 100% de performance sur SARA que vous saurez faire du raisonnement juridique en pratique. Et donc, la prochaine étape, c'est d'avoir un jeu de données qui est plus proche de la réalité et qui soit aussi plus grand, plus varié, parce que là, on a couvert uniquement une toute petite partie du droit fiscal, mais moi je voudrais avoir un jeu de données qui soit sur vraiment la totalité du droit fiscal, voire même aller au-delà du droit fiscal, pourquoi pas.
Le fait de vouloir tester ces intelligences artificielles dans le cadre juridique et donc de savoir quel est leur niveau de raisonnement juridique, c'est pas forcément dans l'idée de savoir si on pourra bientôt remplacer certains jobs dans le cadre juridique par l'intelligence artificielle, mais ça peut avoir un intérêt plus vertueux, notamment d'essayer de trouver des failles qui permettent de faire de l'optimisation fiscale ou ce genre de choses.
Pour prendre un peu de contexte par rapport à votre question, moi j'aime bien distinguer deux types de problèmes. Il y a ceux qu'on sait déjà résoudre, nous en tant qu'humains, et il y a ceux qu'on ne sait pas résoudre parce qu'ils sont trop compliqués. L'intelligence artificielle peut s'appliquer aux deux types de problèmes. Si vous développez un système pour un problème qu'on sait déjà résoudre, vous pouvez en gros décharger l'humain d'une partie de son travail, pourquoi pas. Et par contre, quand vous l'appliquez à un problème qu'on ne sait pas résoudre autrement, là ça devient beaucoup plus intéressant, et c'est ce genre de problème auquel j'essaie de m'attaquer. Donc le fait est qu'on observe très régulièrement, c'est surtout vrai aux États-Unis, que des entreprises trouvent le moyen de combiner deux lois qui, en apparence, n'ont l'air n'avoir rien à voir l'une avec l'autre, pour créer en fait une astuce ou ce qu'on appellerait une faille dans le droit fiscal qui permet de payer moins d'impôts, voire pas d'impôts. Et ça existe parce que les lois sont écrites à des décennies d'intervalle et que les gens qui rédigent une loi à l'instant T n'ont pas forcément connaissance de toutes les lois qui ont été écrites précédemment. Et donc c'est là qu'une intelligence artificielle peut être utile, parce que l'intelligence artificielle, contrairement aux gens qui rédigent les lois, elle a beaucoup plus de temps et elle peut lire l'intégralité de toutes les lois qui ont été écrites. et donc potentiellement elle peut trouver des combinaisons un peu astucieuses. Donc moi, l'objectif que je me donne dans ma recherche, c'est de trouver ces combinaisons, évidemment avant qu'elles soient exploitées, et même pourquoi pas, idéalement, d'aider le législateur qui, au fur et à mesure qu'il écrit ses lois, peut vérifier qu'il n'y a pas de problème qui a été créé par cette nouvelle loi.
Là, tous les travaux dont on a parlé jusqu'ici, c'est pour du droit américain. Est-ce que vous avez pour projet aussi d'appliquer ça à d'autres droits, et notamment le droit français ?
Oui, totalement. Donc, je travaille notamment avec un professeur de droit en France. Je suis aussi en lien avec la Cour de cassation. Mais bon, tout ça, c'est des projets qui sont en cours. L'objectif, c'est bien sûr d'étendre ça au droit français, aussi au droit d'autres pays, parce qu'en fait, beaucoup de failles du droit fiscal, elles se font à l'interface entre le droit de différents pays. Donc en fait, il faut quasiment considérer le droit du monde entier si on veut vraiment trouver toutes les failles. Maintenant, si un professeur de droit fiscal nous écoute, s'il vous plaît, contactez-moi. Je suis absolument à la recherche de collaborateurs qui seraient intéressés dans ces problématiques-là, à l'interface entre le droit et l'informatique.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour prendre le pouls de la recherche en cours, c'est notre collection La Science au Labo, et c'est à podcaster sur l'appli Radio France. Alban Levaux-Vallier, on arrive vers la fin de cette discussion, mais pourquoi est-on obsédé par le fait de tester l'intelligence des machines ?
Il y a quelque chose d'assez nauséabond, en fait, il faut le dire quand même, dans cette obsession d'intelligence. L'histoire du concept et des tests d'intelligence, elle est très cousine en fait de l'histoire de l'eugénisme, de cette idée, de cette application un peu hâtive du darwinisme à l'espèce humaine, de confondre l'idée d'adaptation avec l'idée de progrès et de vouloir se mêler de faire progresser l'humanité. Alors à la fin du 19e et au début du 20e, c'était en sélectionnant les gens qui pouvaient se reproduire, voire en empêchant celles dont on pensait qu'il ne fallait pas qu'elles se reproduisent de se reproduire. Ça a nourri les thèses nazies. Il y a eu des programmes eugénistes au XXe siècle, jusque dans les années 70, dans pas mal de pays, en Suède par exemple. Et en fait, aujourd'hui, c'est maintenant de plus en plus documenté que dans les personnes qui sont un peu les phares idéologiques des gens qui travaillent dans l'IA, donc des gens comme Elon Musk ou des gens comme Sam Altman chez Grok ou chez OpenAI, ont des sources qu'on appelle transhumanistes, dont le but c'est de faire progresser l'humanité, etc., cette fois-ci par la technologie, par une technologie dont on pense qu'elle deviendrait intelligente, et qu'en fait c'est c'est un recyclage de l'eugénisme de la fin du 19e et du début du 20e, dont on commence à voir un peu plus aussi les cousinages assez nauséabonds, comme je disais, avec le racisme. C'est le cas par exemple de Nick Bostrom, qui était quelqu'un qui a été très lu dans les années 2010 sur ces sujets-là, ou qu'on peut voir un peu plus chez Elon Musk, notamment à un moment où on voit que les grands patrons de la tech américaine s'alignent de plus en plus sur le virage idéologique qu'on voit aux États-Unis.
De quoi, en tout cas, cette histoire-là, le test de Turing, au dernier test de l'humanité, tout ça c'est un peu les miroirs, le reflet de ce qu'on se raconte sur ce qu'est censé être l'intelligence ?
Oui, exactement. Et en fait, quand on regarde historiquement ce que recherchaient les chercheurs en IA dans les années 50-60, ils avaient une espèce de fantasme de l'intelligence qui ressemblait à ce qu'eux-mêmes essayaient d'incarner, d'une sorte d'honnête homme capable de jouer aux échecs, de faire de la traduction, d'écrire des romans. Et donc, à chaque époque, en fait, ce qu'on va essayer de projeter sur ce qui est projeté sur nos machines, c'est les préjugés ou ce qu'on se raconte sur ce qu'on imagine être l'intelligence et du coup ce qui caractériserait l'humain. Donc la question derrière, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est que l'humain ?
Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans une poignée de seconde, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Mais je rappelle à nos auditeurs, Alban Levaux-Vallier, que votre ouvrage « IA, l'intuition et la création à l'épreuve des algorithmes » est disponible en librairie ou en médiathèque. Tout de suite, on quitte le monde de l'intelligence artificielle et on part à la chasse aux astéroïdes. C'est la chronique avec science.
Comment retracer la généalogie des météorites ? Il y en a à peu près 30 000 chaque année. 30 000 morceaux de cailloux spatiaux qui pénètrent l'atmosphère sans être totalement réduits en poussière et qui tombent au sol. La plupart sont des chondrites ordinaires. Comme leur nom l'indique, ce sont les plus communes et au sein de cette famille, leur composition varie, notamment en fer. On trouve les chondrites H qui en ont le plus, H pour high, les chondrites LL pour low low qui en ont moins, et entre les deux, on a les chondrites météorites, elles. Chaque météorite vient d'un caillou plus gros, un astéroïde qui flotte quelque part entre Mars et Jupiter, et en regardant la nature chimique de ces astéroïdes depuis la Terre, et en la comparant à ce qu'on tient dans les mains, on peut retrouver le parent. Mais ce qui est simple pour les chondrites H et LL, l'est beaucoup moins pour les L. Marine Choco est postdoctorante au Centre pour l'habitabilité planétaire à Oslo. Elle est la première autrice de ses travaux réalisés lors de son doctorat au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
Quand on s'intéresse aux astéroïdes qui sont dans la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, on peut les regarder par spectroscopie pour essayer de voir si leur surface ressemble à peu près à celle des météorites en termes de composition. Pour ce qui est des chondrites H et des chondrites LL, la communauté scientifique est relativement d'accord pour postuler que certains astéroïdes seraient a priori liés à ces météorites-là et donc auraient des compositions similaires et seraient la source de ces météorites. Pour ce qui est des chondrites L, c'est beaucoup plus débattu dans la communauté. Quand on regarde leur spectre, les L sont masquées. En fait, elles sont un peu au milieu entre les H et les LL, mais il n'y a pas vraiment d'astéroïde qui ressort avec une composition strictement la même. Et donc, historiquement, c'était vaguement accepté que les chondrites L venaient d'une certaine famille d'astéroïdes nommée Gefion et qu'elles auraient été séparées lors de la rupture de ce corps parent il y a 470 millions d'années. Donc, en gros, que les chondrites L se seraient formées il y a 4,5 milliards d'années, qu'elles aient passé 4 milliards d'années tranquillement dans le système solaire sans qu'il ne se passe rien, puis que leur astéroïde parent soit explosé à 470 millions d'années.
Bon, vous aurez compris avec le ton de cette chercheuse que ce serait un peu trop simple. Les chondrites, elles, n'ont pas de parent idéal dans la ceinture d'astéroïdes. Personne qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau. Les méthodes précédentes pour établir ce lien de parenté avaient recours à des données orbitales pour remonter la trajectoire de ces météorites. Mais avec ces techniques très astrophysiques, l'histoire implique qu'un vieil astéroïde ait passé plus de 4 milliards d'années sans percuter grand-chose, ce qui paraît un peu impossible. Dans cette nouvelle étude parue dans Nature Astronomy, la démarche scientifique est différente. Il s'agit de détecter au sein même de la météorite la trace d'une séparation avec son parent. Et cet événement est gravé dans la roche. Grâce à des analyses chimiques, on peut d'abord déterminer quand a eu lieu le choc, un peu comme du carbone 14, mais avec de l'uranium qui agit comme une horloge. Et ensuite aussi avoir accès à la taille de l'astéroïde parent et de celui qui a frappé. Plus le choc est intense, plus les conditions de température et de pression extrême ont duré, et donc plus les minéraux ont été transformés. Résultat, on obtient ainsi un arbre généalogique qui complexifie un peu l'histoire des chondrites L.
En combinant nos résultats avec tout ce qui est d'informations orbitales qui a été obtenu par d'autres équipes, on a réussi à en fait un petit peu passer au peigne fin de la ceinture d'astéroïdes pour trouver des astéroïdes qui seraient correspondants en termes de taille par rapport aux tailles des corps parents que nous avons estimé avec notre méthode, qui serait correspondant en termes d'âge par rapport à ce qu'on a vu avec la datation uranium-plomb et qui serait correspondant en termes de position dans la ceinture d'astéroïdes par rapport aux informations que l'on a des météorites qui tombent récemment et dont on arrive à filmer l'entrée dans l'atmosphère. Et donc le résultat principal de notre étude, c'est que nous avons observé une diversité de taille et d'âge enregistrée dans les météorites qui est beaucoup plus grande, qui suggère une histoire beaucoup plus complexe que ce que les scientifiques avaient tendance à penser avant cette étude, donc qui serait que les météorites ont subi un impact il y a 470 millions d'années, se sont séparées et sont arrivées sur Terre. Là, ce qu'on a plutôt proposé, c'est que les chondrites étudiées sont originaires d'au moins quatre familles qui auraient été formées il y a 700, 470 et un peu moins de 100 millions d'années.
Pas une famille, mais quatre, à trois temps différents, ce qui est un scénario plus plausible que le précédent. Si vous êtes une auditrice ou un auditeur très assidu de cette chronique, vous savez que je parle souvent de météorites. En 2024, trois nouvelles publications révélaient que 90% de l'ensemble des chondrites provenaient de deux familles de météorites. Cette nouvelle étude n'entre pas en totale contradiction avec ses travaux, puisqu'elle s'est intéressée seulement aux chondrites L, qui pourraient être contenues dans les 10% de chondrites restants. En revanche, il y a tout de même quelques subtiles incohérences. Et finalement, c'est un bon exemple du fonctionnement de la science et de la recherche. Les légères nuances d'interprétation seront résolues non pas par une unique étude, mais comme toujours par plusieurs, avec l'accumulation d'indices convergents. La suite donc au prochain épisode.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, Mineta Jawara. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.